Bonjour, vous êtes bien sur la radio Rouge et Noir, Radio Libertaire 89.4. Il est 11h36, c'est l'heure de retrouver Zone d'attraction.
Une histoire se fait pas n'importe comment.
Qu'est-ce que tu fais ?
Jouer à se mettre dans la peau de l'autre.
La stratégie, sûrement, vient de ce point.
Pensée critique.
Zone.
Oui,
pensée
zone.
Critique.
Zone. Attraction.
Barzonner les conseils.
Car nous irons là où notre flânerie nous portera.
Laboratoire où laisser la voix.
Espace d'interrogation.
La voix libre en forme.
Résistance. Aujourd'hui, l'Institut. Espace d'interrogation des pratiques. Que celles-ci soient théoriques, sociales ou politiques.
Et vigilance. Vigilance toujours. Quant à la congruence entre théorie et pratique.
Faire danser ensemble les hétérogènes. Interférence, confrontation.
Transversalité, ironie en guise de sol.
Le Karabakh ne revient de droit à personne.
Même notre tâche historique à nous.
Des monuments, des capacités d'expression.
C'est un courant culturel. Donc, contestataire.
Si on n'a pas ça, on aura un problème qui sera géré par la police.
Mais ce n'est jamais le bonheur.
Enfin,
comme ça, donc ça peut disparaître.
En d'autres cas,
ça intéressant.
Activité, autogestion, autonomie.
On était d'ici il y a 3 semaines, là on sera mettons une dizaine de plus.
Ouais, oui, c'est inévitable.
Si on essayait autre chose,
zone.
Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais.
Zone d'attraction.
Attraction, zone d'attraction. Bonjour, c'est de Kafka qu'il sera question aujourd'hui dans Zone d'attraction. Destinée singulière que celle de l'œuvre de Kafka, œuvre classique, archi-commentée et recommentée, emblème de ceux pour qui toute utopie devait fatalement mener à son retournement tyrannique. C'est ainsi que le procès ou la colonie pénitentiaire ont pu être réduits à une description du totalitarisme et plus largement comme autant de coups de sonde portés au cœur du mal absolu dont le XXe siècle aurait été le déploiement. Notre invité, Michael Lowy, ne fait pas la part belle à ses interprétations théologiques. Pour s'y opposer, il emprunte les chemins difficiles de la biographie qui l'amène à découvrir un Kafka sur lequel le socialisme libertaire aurait exercé une puissante attraction. L'épisode anarchiste dans la vie de Kafka nous donne alors la clé d'une inspiration libertaire qui traverse l'œuvre dans son ensemble. Sensibilité critique dont la principale arme est l'ironie, aussi bien que l'humour noir défini par Breton comme une révolte supérieure de l'esprit. Se fondant sur témoignages et échanges épistolaires, Lowy déroule ainsi le fil rouge et noir de la sensibilité libertaire de Kafka. L'anarchisme, compris non pas comme la doctrine d'une certaine attitude envers la classe ouvrière, mais comme défiance continuelle envers le pouvoir institué de l'État, cet État fut-il constitutionnel. Ainsi, loin de mettre en scène des personnages aux prises avec le cauchemar de l'État total, l'œuvre de Kafka décrit plutôt l'enfer banal et quotidien de la bureaucratisation croissante du monde. L'interprétation de cette œuvre comme relevant d'un anticapitalisme romantique ou d'un anti-industrialisme peut certes avoir plusieurs versions légitimes. Toutefois, croire qu'elle transcende les clivages gauche-droite est faux. En effet, si l'anticapitalisme romantique est une matrice commune à certaines formes de pensée conservatrice, réactionnaire et révolutionnaire et dépasse en ce sens le clivage classique entre la gauche et la droite, il n'en reste pas moins que s'oppose clairement romantisme réactionnaire et romantisme révolutionnaire. Et l'anarchisme, le socialisme libertaire, l'anarcho-syndicalisme sont un exemple paradigmatique d'un anticapitalisme romantique de gauche. Par conséquent, définir la pensée de Kafka comme romantique ne signifie nullement qu'elle puisse être rangée dans les placards de l'apolitisme. Nous ne pourrons donc pas faire l'impasse sur le romantisme révolutionnaire, dimension chère à notre invité. Bonjour Michael Lowy, bonjour Valentin.
Bonjour Charlotte, bonjour Michael.
Bonjour.
Alors, tu as publié il y a quelques années un livre sur Franz Kafka, Franz Kafka, rêveur insoumis, c'était en 2004 chez Stock. Tu as publié aussi d'autres ouvrages, le judaïsme libertaire en Europe centrale, Révolte et mélancolie, le romantisme à contre-courant de la modernité. Alors, ce Kafka que tu nous présentes dans cet ouvrage, alors ce n'est pas à proprement parler un Kafka militant anarchiste, mais c'est un Kafka sur lequel le socialisme libertaire aurait exercé une attraction assez puissante, attraction à partir de laquelle on peut lire l'œuvre de Kafka d'une façon assez singulière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu en es venu à ce livre et à cette perspective?
Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à Kafka il y a très 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 longtemps. J'avais écrit un article sur Kafka et l'anarchisme dans les années 60, qui avait été traduit, et je l'avais publié d'abord en hébreu, pour des raisons bizarres. Ensuite, ça a été traduit en yiddish, en espagnol, en anglais, etc. Et après, j'ai repris cet article, je l'ai édité en français. Bon, donc ça, c'est depuis les années 60 que ça me travaille, que je rumine, disons, cette idée. Et finalement, il y a quelques années, j'ai eu envie de travailler ça vraiment d'une façon plus systématique et en faire un petit livre. Voilà, donc c'est le produit de quelques dizaines d'années des ruminations. Voilà. Donc, voilà, le point de départ, donc, était, j'étais frappé par cet intérêt, cette attirance, cette sympathie qu'avait le jeune Kafka pour le milieu anarchiste, anarcho-syndicaliste à Prague. Ça se passe entre les années 1909 et 1913. Et il existe à ce sujet quelques témoignages, hein, au moins trois. J'ai trouvé un quatrième, et probablement il y aurait encore un ou deux, mais bon, j'ai pas réussi encore à mettre la main dessus. Bon, mais au moins trois, quatre témoignages existent. C'est un sujet très controversé parce que la bibliographie universitaire, académique. Conformiste sur Kafka ne supporte pas cette idée Kafka fréquentant de milieux anarchistes. C'est un scandale.
Ça, c'est pas possible, c'est inconcevable.
Oui, c'est inconcevable. Hein. Kafka, c'est un monsieur sérieux, un avocat. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est absurde, c'est ridicule. Non. Donc, il y a une résistance virulente. Hein, beaucoup de spécialistes, ils rejettent ça d'une façon catégorique. Alors, quoi faire avec les trois témoignages? Alors, ils disent, le premier témoin, qui s'appelle Michal Kash, bon, il a, son témoignage est cité par Max Brod, qui était l'ami de Kafka et le biographe de Kafka. Alors, on dit, ces gens-là disent, Kasha était un fabulateur, un inventeur. Il a inventé ça. Bon, bien. OK, ça existe, des gens qui fabulent. Bon, ensuite, il y a un deuxième témoignage, d'un type qui s'appelle Joseph Mares. Et lui, il a laissé par écrit son témoignage. Hein. Il a laissé par écrit, il y a deux versions qui sont un peu différentes, mais enfin, sur l'essentiel, elles coïncident. Où il dit, voilà, j'ai rencontré Kafka, je le connaissais, je l'ai invité à venir à des réunions anarchistes, il est venu. Une réunion qui était sur la Commune de Paris, une autre sur l'exécution d'un anarchiste français qui s'appelle Elia Boeuf, une troisième... pour protester, c'était une manifestation de rue pour protester contre l'exécution de Francisco Ferrer en Espagne, etc. Bon, il énumère les différentes participations et il dit, bon, Kafka n'était pas un membre de notre mouvement, c'était pas un militant, mais enfin, ça l'intéressait, il venait, il participait parfois, etc. Bon, donc deuxième témoignage, réaction de ces messieurs universitaires, c'est un menteur, hein, menteur.
C'est
un menteur. Bon, ensuite, bon, bien, alors ça fait déjà deux menteurs, c'est lourd. Bon, ensuite il y a le troisième. Alors le troisième, c'est un jeune qui a connu Kafka un peu plus tard, vers 1920, et qui les rencontrait souvent. Ils avaient des conversations informelles. Et ces jeunes prenaient des notes, des conversations. Et après la mort de Kafka, beaucoup plus tard, il a publié ces notes, qui s'appelle « Conversation avec Kafka ». Gustav Janusz, un tchèque aussi. Réponse des autorités compétentes en études de Kafka. Okay, ouais. C'est un menteur aussi. Lui aussi, c'est un menteur. Bon. Ça fait trois menteurs. Pourquoi il y a une conspiration. Ils ne se connaissent même pas entre eux. Ils ne sont pas... Bon, même bord.
Suspect.
Bon. Alors, trois menteurs. Et puis, j'ai trouvé un quatrième.
Un quatrième menteur, alors.
Mais ils n'ont pas eu le temps de dire qu'il est menteur parce qu'ils ne connaissent pas ces témoignages. Hein. Je l'ai déniché. Bon, alors, mais ils auraient dit, oui, le quatrième aussi, c'est un menteur. Bon, c'est pas possible. Hein. Donc, les témoignages existent. Donc, c'est un fait. Hein, c'est un fait. Et je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire clairement. Il faut décortiquer les arguments. Bon, il y a toute une partie du livre où je discute. Par exemple, un argument de conservateur, c'est pas possible que Kafka ait participé à ces activités parce que s'il avait fait ça, il en aurait raconté quelque chose à son ami Max Brod.
Hein? Qui était le biographe autorisé.
Ils étaient très proches, ils lui racontaient tout. Bon. Alors, puisque Max Brod n'en savait rien, donc c'est pas possible, ça n'a pas existé. Bon. Sauf que, c'est ce que je réponds, Max Brod, effectivement, Kafka ne l'a jamais parlé de ça, mais Max Brod a recueilli les témoignages du premier témoin, Michael Kasch, bon. Et Max Brod trouvait le témoignage crédible. Il trouvait crédible, malgré le fait que Kafka ne lui a jamais parlé de ça. Et il dit à un certain moment dans la biographie, Kafka était quelqu'un de très sécrétif et il y a des choses qu'il ne m'a pas racontées. Hein, c'est comme
là,
ça.
C'était quelqu'un d'assez secret finalement qui ne racontait pas tout.
Hein. Voilà, il ne racontait pas tout. Donc, Max Brod trouvait crédible le témoignage, donc il trouvait que c'était probablement vrai. Voilà. Etc. Bon, donc il y a une discussion sur le fait, mais je pense que si on a un minimum d'honnêteté, hein, il faut reconnaître que les faits sont là et ils témoignent d'une chose. Bon, simplement, Franz Kafka avait de la sympathie pour ces milieux anarchiste, anarcho-syndicaliste. C'est tout. Hein. C'est pas plus que ça. Il n'était pas un militant, il n'était pas un adhérent, il n'a jamais écrit des textes doctrinaires. Bon, non. Donc, mais il y avait un lien, il y avait une affinité, il y avait une sympathie.
Il aurait assisté à certaines réunions, restant silencieux, mais il était présent.
Voilà. Il était silencieux. Tous les témoignages disent qu'il ne parlait pas. Il n'ouvrait pas la bouche, il était dans un coin, bon, silencieux. Mais il était là, ça l'intéressait, et parfois, apparemment, il était dans les manifestations aussi. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Bon, à mon avis, il ne faut pas conclure que, c'est ça, Kafka était donc un anarchiste. C'est là où il a entendu, bon, dans ses réunions, des idées, des doctrines qu'il va ensuite exprimer dans son œuvre. Non, c'est pas ça. Hein, c'est-à-dire, Kafka n'est pas un écrivain anarchiste, hein, comme, je sais pas, Ricardo Flores Magón, hein, qui est un grand révolutionnaire mexicain qui écrivait de contes anarchistes. Bon, bien, ça, c'est un écrivain anarchiste. Bon, Kafka, c'était pas ça. Hein. Mais il y avait quelque chose. Hein, il y avait quelque chose.
Une tonalité, une Stimmung.
Voilà, une Stimmung, hein, une tonalité, un état d'esprit. Hein, un état d'esprit qui le fait s'intéresser aux libertaires et qui se manifeste dans sa vie, dans sa biographie et dans son œuvre. Hein. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut définir cet état d'esprit? Alors, je cite toujours une phrase d'une lettre de Kafka à sa fiancée, hein, Felice Bauer, hein, de 1900, je ne me rappelle plus la date. Bon, je peux citer mon livre, mais bon, la date. Mais dans cette lettre, je cite des mémoires aussi, il dit « J'ai souvent souffert du manque de liberté ». Et j'ai un besoin infini d'autonomie, indépendance et liberté dans toutes les directions. Hein? Un besoin, une soif infinie de liberté dans toutes les directions. Voilà vraiment l'esprit du personnage. Hein? L'attitude, bon, les Allemands disent le Sitzimleben, la position dans la vie, hein, de Kafka, quelqu'un qui a une soif infinie de liberté dans toutes les directions. Bon, alors ça, l'arrière-fond de ça, la source première de ça, c'est biographique, ça a à voir avec le conflit avec le père, hein, la tyrannie paternelle. Hein. Donc, son premier conflit, c'est avec l'autorité du père. Et il y a un document de Kafka qui est la lettre au père, qui est terrible. Enfin, une lettre où il se plaint amèrement, vraiment, c'est terrible, du traitement qu'il a souffert, de la façon dont le père l'a traité. Et il parle de tyrannie, hein, c'est le terme qu'il parle, la tyrannie du père. Et il dit, bon, à cause de cette tyrannie que j'ai tellement souffert, quand je voyais la façon dont toi, il s'adresse au père, traitais tes employés, l'employé de son commerce, hein, je m'identifiais avec eux. J'ai pris le parti des travailleurs, des employés, contre toi. Hein. Alors, voilà, ça montre.
C'est une lettre assez forte.
Exactement,
hein.
C'est très fort. Hein. Voilà le cheminement de Kafka. À partir de l'expérience avec la tyrannie paternelle, il prend le parti de ceux d'en bas, hein, des employés, des travailleurs. Bon. Et à partir de la tyrannie paternelle, de l'autorité paternelle, il commence à mettre en question l'autorité en général. Voilà le cheminement. Mm-hmm. Donc, le point de départ, c'est ça, c'est l'expérience de la... l'écrivain Milan Kundera a une expression que j'aime beaucoup, le totalitarisme familial. Mmh. Bon, c'est ça. Hein,
cette la famille expérience. Comme institution totale, en fait.
Voilà. Et à partir de ça, bon, Kafka va se révolter contre toute autorité. Hein, c'est ça. Et à partir de ça, il va chercher les anarchistes. Disons, le point de départ, c'est pas qu'il était endoctriné par l'anarchisme. Non, simplement, c'est à partir de cette attitude, de cette Stimmung, hein, de cet état d'esprit, qu'il va aller chercher les anarchistes, les écouter, les lire, parce qu'il lisait aussi dans son journal, il y a des références à des livres anarchistes, il y a une phrase, ne pas oublier Kropotkin, point d'exclamation. Mm-hmm. Hein, donc il a lu Kropotkin, bon, etc. Donc, mais le point de départ, c'est cette attitude personnel.
Hein. Donc il y a vraiment une congruence finalement entre la dimension du vécu, du biographique, avec finalement une posture, une attitude critique qui va développer finalement.
Voilà.
Parce que ce que je trouve assez frappant dans ton propos, c'est que tu pars quand même de cette dimension biographique. Et ça aussi, oui. Du point de vue des interprètes ou des universitaires autorisés, c'est pas forcément quelque chose qui est évident de partir de la biographie. On va te dire, c'est parce qu'on peut... Parce qu'on peut te dire, ce n'est pas sérieux, finalement, oui. Il y a, c'est d'abord
parfois,
le texte, etc.
Parfois, effectivement, on se sert d'outils biographiques, mais pas dans le cheminement que tu fais, où effectivement, tu nous disais au début de l'émission tout de suite, attention, il n'y a pas à caler une interprétation et dire, donc, c'est un anarchiste, etc. Oui. Non, c'est toujours plus complexe, donc il faut faire attention avec les sources aussi, les travailler et de dessiner autrement les choses.
En fait, on pourrait arriver à la même conclusion par une analyse uniquement des textes, des œuvres. Hein. Mais bon, l'élément biographique facilite. Hein. Mais on peut arriver à la même conclusion si on analyse les œuvres. Et il y a quelqu'un qui l'a fait dans cet esprit, c'est Adorno, hein, le philosophe de l'école de Francfort, qui a un essai sur Kafka qui est très intéressant. Et il y a une phrase dans ce texte que je trouve très forte, où il critique les interprétations très fréquentes de Kafka, qui disent Kafka décrit la condition humaine éternelle. Hein. Bon, l'être humain est voué à être écrasé, etc. Bon,
c'est soumis. Un peu plat.
Oui. Donc, il n'y a pas contre quoi se révolter, c'est la condition humaine. Hein. Il faut se résigner. Hein. Donc, il y a cette lecture résignée, fataliste, de la condition humaine éternelle décrite par Kafka. Bon, bien.
C'est souvent l'image qu'on a d'ailleurs de Kafka.
Et y compris certains critiques communistes staliniens, disons, de Kafka, ont dit, voilà, Kafka, il prêche la résignation, c'est un fataliste.
Faut-il brûler Kafka? Il y a eu tout un débat.
Voilà, faut-il brûler Kafka parce qu'il est pessimiste, fataliste, la condition humaine. Bon, bien. Alors, Adorno a cette phrase et il dit, interpréter Kafka en termes de la condition humaine éternelle, c'est le trahir dans un esprit conformiste. En réalité, le ton de l'œuvre de Kafka est celui de l'extrême gauche. très bizarre, c'est parce qu'Adorno n'utilise jamais cette expression extrême gauche. C'est un des rares endroits. Bon, les tons de l'œuvre de Kafka est celui de l'extrême gauche. C'est frappant. Bon, et il connaissait pas l'épisode biographique. Hein. C'est juste à partir de l'œuvre. Bon, évidemment, il parle pas d'une doctrine politique, il parle d'un ton au sens musical, hein, parce qu'Adorno était très intéressé par la musique. Bon, donc il y a une musique révolutionnaire, si on veut. Bon, il dit extrême gauche, bon, hein, je dirais libertaire. Bon, dans l'œuvre de Kafka. Hein. Donc, même si on ne connaît pas l'épisode biographique, on peut arriver à cette conclusion par la lecture des œuvres. Mais évidemment, si on prend en compte cet aspect biographique, ça facilite, hein, ça facilite la compréhension de cette dimension existentielle de révolte anti-autoritaire, hein, d'esprit anti-autoritaire.
Où est-ce qu'il peut finalement nous conduire à lire des œuvres comme Le Procès, par exemple, non pas comme Charlotte l'évoquait dans sa chronique, non pas comme des situations, enfin comment dire, des œuvres décrivant des situations de personnages aux prises avec l'État totalitaire, comme ça a souvent été dit, mais simplement avec une sorte de bureaucratisation croissante du monde, et qui peut être aussi celle de n'importe quel État constitutionnel. C'est-à-dire que Joseph K. Est a priori coupable, est désigné comme étant coupable par cette bureaucratie. Donc là, il y a aussi une tonalité libertaire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réinterpréter Kafka uniquement en fonction de l'idéologie antitotalitaire des nouveaux philosophes des années 70, quoi.
Oui, tout à fait.
Et c'est ce qui vous fait dire d'ailleurs la critique moderne, de l'État moderne. Vous avez beaucoup insisté là-dessus, de dire que ce n'est pas un État total d'un passé dont on ne saurait même plus...
Une sorte de mal absolu.
Voilà, mais vraiment une critique de l'État moderne tel qu'on peut le connaît aujourd'hui, finalement.
Oui, tout à fait. Mais je dirais, avant d'arriver au procès, le premier écrit de Kafka, notamment les deux premiers contes qu'il a écrits, Le Jugement et La Métamorphose, il met en scène l'autorité paternelle. Donc d'abord, il commence avec ça. Hein, il dénonce l'autorité paternelle qui est présentée sous une forme terrifiante dans ce conte. C'est le père qui tue le fils, pratiquement. Hein. Bon. C'est dans un deuxième moment qu'il va s'attaquer à l'autorité impersonnelle, l'autorité bureaucratique, l'autorité anonyme, des pouvoirs, des appareils. Donc il y a un mouvement dans son œuvre, et je pense que ce qui déclenche ce passage du totalitarisme familial, disons, aux appareils, c'est la Première Guerre mondiale. C'est à partir de la Première Guerre mondiale qu'il s'est dit, bon, le pouvoir du père est terrible, mais ce que je suis en train de voir, c'est autre chose, beaucoup plus terrible, qui est en train de tuer tous les fils. Enfin, tous les fils sont envoyés à la mort. Hein. Bon, donc voilà, c'est une espèce de déclic. Et à partir de ce moment-là, c'est les appareils. Alors, donc prenons Le Procès, qui est vraiment un ouvrage qui a marqué les sensibilités au XXe siècle. Enfin, c'est un des grands ouvrages de la littérature du XXe siècle. Bon, on l'a lu effectivement comme une prophétie du totalitarisme. Alors, je dirais, c'est pas entièrement faux. Il y a quelque chose dans ça. Hein. Bon. Par exemple, excusez-moi, hein, j'ai un peu d'étonnant, l'eau malheureusement ne guérit pas.
Bon,
elle est froide.
Du café à la pause.
Bon, j'ai perdu le fil. Les procès. Donc,
tu disais que ce n'est pas complètement faux.
Oui, c'est-à-dire, prenons quelqu'un comme Bertolt Brecht. Hein. Brecht, en 1937, il écrit un article en disant, voilà, Kafka a prévu ce qui est en train de se passer en Allemagne, les camps de concentration, l'État absolutiste du nazisme. Bon, c'était 37, c'était pas encore Auschwitz, hein, mais c'était déjà à Dachau. Hein. Bon,
c'est déjà pas mal.
C'est intéressant. Et curieusement, le même Brecht, qui était sympathisant communiste, compagnon de route, comme on disait, dans des conversations privées avec son ami Walter Benjamin, il dit. Kafka a prévu des choses qui arrivent aujourd'hui, la Gestapo par exemple, mais aussi la GPU, la police soviétique, hein, la police stalinienne. Hein. Ça, elle dit, pas publiquement, mais elle dit à son ami Walter Benjamin. Hein. Donc, le même Brecht, disons, voit dans Kafka un peu l'intuition du totalitarisme à venir. Bon, aussi bien le stalinien que le fasciste. Bon. Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais si on le lit de cette façon-là, on risque de rater quelque chose d'essentiel, qui est que l'état décrit par Kafka dans le procès, et aussi dans le château, ce n'est pas un état totalitaire, c'est un état tout court. Hein? Bon. Et la meilleure preuve, c'est la première phrase du procès. C'est-à-dire, on sait que le procès commence, excusez-moi, avec le policier qui frappe à la porte à l'heure du laitier. Hein, classique, ils viennent arrêter Joseph K. Et Joseph K s'étonne, il dit, mais comment, je vis dans un état constitutionnel, toutes les lois sont en vigueur. Hein, comment se fait-il que moi, je n'ai rien fait, je suis innocent, pourquoi on veut m'arrêter, hein? Bon, donc voilà, dès le début, la chose est posée. Hein. Ce n'est pas un État, une dictature violente, un État absolutiste ou totalitaire. Bon, non, c'est un État ordinaire, constitutionnel, les lois sont en vigueur. Hein. Donc il y a cette regard libertaire, on peut dire, hein, sur l'État. Tous les États, n'est-ce pas, ont tendance à broyer l'individu. Hein, voilà.
Et dans le débat actuel, je pense que ça serait effectivement très intéressant de relire
le procès,
n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. C'est toujours un livre actuel en 2008.
Plus que jamais, peut-être même.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il s'agit de l'État. Bon, c'est l'État moderne, c'est-à-dire l'État bureaucratique. Hein. C'est les appareils anonymes. Tandis que l'État pré-moderne, bon, c'est l'État d'une personne. Hein, c'est le roi, c'est l'empereur, c'est un individu qui exerce sa tyrannie, son pouvoir absolutiste. Bon, déjà, les appareils sont en place, mais on focalise beaucoup sur le pouvoir d'un individu. Là, dans le procès, il n'y a pas de représentant qui détient le pouvoir. Hein. On voit personne, il n'y a pas de visage.
C'est impersonnel.
C'est la machine du pouvoir qui fonctionne toute seule, en somme.
Exactement. Mmh. Hein. C'est l'appareil bureaucratique. Hein. Et ça, c'est une intuition très, très profonde. Hein. Mmh. L'appareil bureaucratique moderne, c'est lui, cette machine à broyer les individus. Hein. Bon, qui... Pardon. C'est manifeste sous les formes les plus banales dans l'absurde bureaucratique, hein, l'expérience que tout le monde fait. Hein. Il va dans une administration et on lui demande une série de documents qui n'existent pas, etc. Des choses complètement absurdes, incompréhensibles, opaques, irrationnelles. Donc, il entre dans une espèce de labyrinthe où il ne trouve pas la sortie. Bon, ça, c'est l'expérience de tout le jour. Hein. C'est pour ça que les gens parlent de... C'est aujourd'hui, j'ai vécu une situation kafkaïenne. Hein. C'est une expression qui est entrée
dans le langage courant.
Dans le langage, hein. Bon, donc ça, c'est le premier aspect. Mais ça peut aller plus loin. Et le procès termine avec la mise à mort de l'individu. Hein. Donc, il y a toute une gamme d'expériences avec l'État qui va du simple absurde bureaucratique jusqu'à la mise à mort. Voilà. C'est ça la grande leçon, disons, du procès.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Oui. Parce que
pour laisser notre invité respirer.
Tu nous as amené des cassettes et tu es très courageux parce que tu as une bonne grippe et... Malgré ça, tu résistes pour parler aujourd'hui de Kafka, rêveur insoumis. Alors, on s'écoute un premier morceau que Michael Louis nous a apporté.
Gehen. Zu Gott erwähnt.
Alors, nous voici de retour sur Zone d'attraction Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui avec Michael Louis pour nous parler des attractions exercées sur Franz Kafka par le socialisme libertaire. Alors, juste avant la pause musicale qu'on va peut-être commenter un peu, en fait. Ce sont des morceaux que tu nous as amenés. C'est une cassette que tu avais achetée il y a quelques années à Publico, d'ailleurs.
Oui, c'est une cassette de chansons yiddish. Le nom de la cassette, c'est Schwarze Fahne, le drapeau noir. C'est des chansons révolutionnaires en yiddish. Bon, il y en a qui sont anarchistes ou socialistes. Bon, ça n'a pas un rapport direct avec Kafka, parce que d'abord, Kafka, yiddish, c'était pas sa langue, vraiment. Et oui, bon, c'était pas un militant du mouvement ouvrier juif, hein, pas du tout. Mais bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose.
Une tonalité, peut-être.
Voilà, il y a une tonalité. Bon, il s'intéressait à la culture yiddish beaucoup et il avait de la sympathie pour le mouvement libertaire. Donc voilà, pour ça que j'ai choisi ces chansons.
Alors, juste avant cette pause musicale, on évoquait le procès. Et notamment, alors, la fin du procès, hein, qui se termine par la mise à mort de l'individu, ce qui nous permet de comprendre les différents degrés d'oppression étatique qui peuvent exister, du tracas absurde de la bureaucratie la plus banale auquel chaque individu peut être confronté, jusqu'à la mise à mort de l'individu. Et cette fin du procès, c'est une fin qui a donné lieu à beaucoup, à de très nombreuses interprétations.
Oui.
Me semble.
Oui, alors, effectivement, il y a beaucoup de lecture possible de cette fin. Surtout, bon, il y a la lecture, voilà, la résignation de la victime qui accepte son destin, et d'autres qui disent même, voilà, ça montre que au fond Joseph K était coupable puisqu'il a accepté sa mise à mort.
Extraordinaire.
Hein? Voilà. Eh bien. Voilà comment je comprends cette fin. Bon, c'est vrai qu'on voit, disons, il faut dire que Kafka écrit la fin du roman avant le début, hein, c'est-à-dire au même moment. C'est-à-dire, une des premières choses qu'il a écrit, c'est la conclusion, le dernier chapitre. Et après, il a commencé et il n'a pas fini. Enfin, bon, le roman est interrompu, mais on connaît la fin de l'histoire. Hein. Bon, donc pour lui, c'était très important, cette fin. C'est, disons, le personnage Joseph K, pendant tout le roman, il essaie de lutter pour se défendre. À un certain moment, il va même se confronter avec l'appareil judiciaire, le dénoncer, faire un discours, etc. Mais finalement, il se débat et à la fin, on le voit capituler. On le voit capituler et à tel point que quand on vient l'arrêter, il agit, disons, en complaisance avec ses bourreaux, il les accompagne, il marche au pas avec eux, il résiste plus, et au moment de sa mise à mort, il veut même aider à qu'on le tue, n'est-ce pas? Bon, alors c'est terrible, hein, c'est terrible. Et je pense que ce que Kafka veut montrer avec ça, c'est quelque chose de, c'est un thème classique de la pensée libertaire, la critique de la servitude volontaire. Hein, au sens d'Étienne la Boétie. D'ailleurs, le livre d'Étienne la Boétie a été traduit en allemand par un anarchiste allemand, Gustav Landauer. Mmh. Et c'est pas impossible que Kafka l'ait lu, mais enfin, il n'y a aucune preuve. Hein. Mmh. Bon. Mais en tout cas, indépendamment de ça, les thèmes de la servitude volontaire, c'est un thème important chez Kafka. Hein. Et je pense que c'est ça qu'il veut montrer avec la fin du procès. C'est-à-dire, la chose la pire, la plus terrible, qui permet à la tyrannie des appareils de s'exercer, c'est les individus qui volontairement collaborent avec leur écrasement, n'est-ce pas? Et la preuve, à mon avis, que cette lecture est juste, c'est-à-dire que c'est une, au fond, la fin du procès, c'est une protestation contre ça. Bon, il y a en même temps de la compassion pour la victime et une critique de cette victime qui se laisse, qui participe à sa propre exécution. Bon. Et si on prend la dernière phrase du procès, hein, la dernière phrase qui dit, Joseph K, au moment de mourir, il dit « Je meurs comme un chien ». Mmh. Hein, c'est terrible ça, hein, « Je meurs comme un chien ». Bon, alors qu'est-ce que c'est les chiens ?
Alors, la thématique du chien. Ouais.
Voilà. Ouais. Alors, les chiens apparaissent souvent, dans le, y compris dans le procès, toujours comme une allégorie de, des formes les plus basses de la servitude, de la soumission. Parce que les chiens, bon, dans l'imaginaire des gens, souvent, c'est lui qui se couche au pied de son maître, c'est lui qui obéit à la voix de son maître, et c'est lui qui, quand on le fouette, il lèche la main qui l'a fouetté. Hein, c'est ça le, l'idée du chien. Hein, bon.
Tu es un chien par ailleurs.
Oui. Bon, peut-être c'est injuste, hein, mais c'est une certaine image qu'on a du chien, qui Kafka avait en tout cas, qui fait que voilà, le chien c'est ça pour lui. Hein. Et c'est pour ça que la toute dernière phrase du procès dit. Et là, il n'y a que la honte qui lui survivra. Hein. Après sa mort, il n'y a que la honte qui lui survit. Mais honte de quoi? Ben justement, d'être mort comme un chien. Hein. C'est-à-dire soumis, hein, et pas en se révoltant. Hein.
Et pas parce qu'il serait coupable des actes
du tout,
pour lesquels...
Il n'y a rien qui indique qu'il est coupable. Il n'y a aucune phrase qui dit, bon, ah oui, effectivement, j'ai commis un crime terrible, je mérite ça. Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas une question de la culpabilité, contrairement à ce qu'ils disent les interprétations conformistes. Bon, disons, tout va bien, il est coupable, donc il est puni, pas de problème.
Et c'est la condition humaine.
Ne vous inquiétez pas. Bon.
Et c'est la condition humaine, finalement. On est tous a priori coupables.
Voilà, nous moi, sommes tous coupables.
Moi, ça m'évoque un texte de Deleuze, la présentation de Sacha Mazor, où Deleuze travaille sur cette question de la loi, justement, chez Kafka, où il retravaille sur la question de la loi chez Kant, en la réinterprétant à la lumière des œuvres de Kafka, et en disant que, finalement, le monde de Kafka, c'est un peu le monde de la loi morale absolue de Kant, c'est-à-dire c'est un monde où on est toujours susceptible d'être coupable, en fait.
Oui, oui.
Il y a ce travail sur la loi qui est très important. Travaillé aussi par un autre ouvrage dont sur lequel tu proposes une perspective assez singulière, qui est La colonie pénitentiaire. Alors cet ouvrage, dans lequel les personnages, on pourrait peut-être rappeler un peu rapidement l'intrigue de La colonie pénitentiaire.
Donc, La colonie pénitentiaire décrit une île, bon, qui a une colonie, et pénitentiaire, donc où des gens sont arrêtés, emprisonnés. Il y a un voyageur qui débarque dans cette île et on l'invite à assister à une exécution. Exécution d'un soldat qui s'est rebellé contre son officier et qui donc est condamné à mort. Hein. Il faut dire que c'est une colonie française, petit détail intéressant, dont les officiers sont français, le chef, et les soldats et la population sont indigènes. Et celui qui va être mis à mort, c'est évidemment un indigène. Bon. L'île est administrée par un commandant. Il y avait l'ancien commandant qui avait inventé le système d'exécution, dont on va voir, et il y a le nouveau commandant, qui est plus moderne, enfin bon, qui dirige actuellement. Alors, maintenant, la chose la plus étonnante dans l'histoire, c'est l'appareil de mise à mort. Hein. Alors, l'appareil de mise à mort, c'est un appareil étrange dans lequel la victime est couchée, et l'appareil commence à écrire sur son dos la sentence. Dans ce cas, c'est « Honore tes supérieurs hein ».
Bon. On marque la loi sur le corps, quoi.
Voilà, écrit la loi sur le corps. Pendant des heures, hein, c'est une torture. Hein. Bon, il y a du sang. Alors, la machine élimine le sang avec de l'eau. Et quand l'écriture est chaque fois plus profondément, hein, l'écriture, et quand l'écriture est terminée avec beaucoup de fioritures, très belle, tout est parfait, il y a une pointe qui entre dans la nuque et tu finis avec la victime, bon, les condamnés. Donc, voilà. Et en fait, l'histoire dans la colonie pénitentiaire, tourne autour de la machine. Hein. Le personnage principal de l'histoire, c'est la machine, c'est l'appareil. La plupart de la nouvelle, c'est l'analyse, la description de l'appareil, la discussion sur ses qualités, ses défauts, etc. S'il faut l'utiliser ou pas. Bon, donc c'est au centre de l'histoire, c'est l'appareil, de la machine. Et bon, on fait référence au commandant, mais bon, c'est pas lui, on le voit pas, c'est pas le personnage principal. Le personnage, les héros entre guillemets de l'histoire, c'est l'appareil.